Avant de recommencer, je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine commencera le séminaire qui sera donc consacré à la démocratie cosmopolitique. Pour cette dernière séance de cours, je voudrais essayer de donner un certain nombre d'indications provisoires, de conclusions sur ce thème des pathologies de la démocratie. Car il est temps de faire le point sur les conséquences que l'on peut tirer de ces investigations menées sur ces pathologies. Ces investigations nous ont fait croiser des régimes, dans certains de leurs aspects du moins, des chefs et des théoriciens de ces régimes, des essais d'interprétation, des travaux d'historiens, de philosophes ou de sociologues, aussi que ce soit par l'intermédiaire de monographies pointues, autant que par la relecture de classiques. Et il faut dès l'abord reconnaître les limites de notre exploration. En termes de profondeur de champ, par exemple, nous avons la plupart du temps pris en compte certains aspects seulement, des régimes étudiés en fonction du fil de notre interrogation, et bien d'autres exemples qui auraient pu nourrir l'investigation n'ont pas été mobilisés. Nous n'avons par exemple pas mentionné le régime des Khmers rouges, ni parlé de la Chine ou de la Corée du Nord. Nous n'avons fait que de brèves et très limitées incursions en Amérique latine, alors que l'on trouverait tout un ensemble d'éléments sur ce continent qui auraient été susceptibles d'enrichir l'analyse. Nous avons aussi mêlé, sans prendre le soin de suffisamment les distinguer peut-être, l'analyse objective du régime avec la prise en compte de simples idéologies. Il faut avoir conscience de ces limites et de ce qu'elles impliquent. Mais je pense en même temps que la documentation rassemblée et les analyses esquissées doivent déjà nous permettre d'avancer dans la conceptualisation de ces pathologies de la démocratie et dans la réévaluation même de cette notion éventuellement. Nous avons croisé et parfois momentanément repris à notre compte plusieurs notions fréquemment employées pour caractériser certains des régimes ou des idéologies considérées. Celles de césarisme, de jacobinisme, de populisme et de totalitarisme notamment, surtout ces deux dernières en réalité. Il est patent que ces deux notions de populisme et de totalitarisme apparaissent à la fois problématiques et incontournables. C'est clairement le cas de celles de populisme. Elles relèvent ainsi d'un usage historique. Et c'est là l'historien qui retracera l'histoire du Populist Party aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, un mouvement d'origine rurale marqué par le rejet des élites et la défiance vis-à-vis des machines et des chefs politiques qui gouvernaient alors la politique américaine. Ce sera encore pour l'historien l'attention portée au mouvement des Narodniki qui appelait au temps de la Russie tsariste à aller vers le peuple. Et la science politique a aussi un moment utiliser ce terme pour qualifier les caudillismes latino-américains, mouvements oligarchiques, anti-oligarchiques et nationalistes, rassemblés autour de la figure d'un chef charismatique, débouchant souvent sur des régimes que l'on pourrait dire socio-autoritaires, appuyés par l'armée. Régimes caractérisés par un style de gouvernement et une rhétorique politique beaucoup plus que par des institutions spécifiques. Voire notamment le rôle central joué par l'organisation de grands rassemblements avec d'interminables discours, forme qui a elle-même d'ailleurs survécu au développement de la télévision. Mais la caractérisation de ces régimes n'a pas été approfondie, tant ils peinaient, avec leurs contradictions, à rentrer dans les grilles de classification de sciences sociales fortement, sur le continent, imprégnées de marxisme au moment où ils étaient au cœur des réalités du continent. Anti-oligarchique et autoritaire en même temps, menant des politiques sociales et fondées sur le culte de la personnalité, ces régimes étaient en effet à la fois de droite et de gauche, progressistes et réactionnaires. Du même coup, aucun livre de sciences sociales, je dis bien aucun, ne s'était imposé sur le continent latino-américain pour éclairer le phénomène, le rendre lisible et en démonter la logique. Il y avait bien des critiques libérales de ces régimes ou des dénonciations politiques de leurs faux-semblants progressistes, mais pas d'analyse de leur forme politique en tant que telle. Aujourd'hui, ce terme de populisme a ressurgi en Europe, dans un contexte très différent, pour caractériser une idéologie politique et pas des régimes, avec peut-être l'exception du gouvernement Orbán en Hongrie. Le fait est d'abord là que le terme même de populisme est pour le moins ambivalent dans ses usages. Désignation péjorative ou même invective, objet de suspicion ou de mépris pour certains, il est à l'inverse fièrement revendiqué par d'autres. Tout se passe en fait comme si renaissait avec ce mot d'antiques oppositions entre plebs et populus, aussi bien qu'entre démagogie et gouvernement rationnel. Et pourtant, il y a aujourd'hui un évident lien de parenté entre les thématiques de tout un ensemble de mouvements européens originaires de l'extrême droite. Et si l'on sent bien que le terme est chargé d'idéologie, avec une dimension évidemment polémique politique, flou à force d'être polysémique, il semble bien en même temps renvoyer au fait d'une indiscutable redistribution contemporaine des lignes d'affrontement dans le champ social et politique qui invite à utiliser de nouvelles catégories d'analyse. Ainsi, ce terme est-il à la fois insatisfaisant et indispensable. Le même caractère, insatisfaisant et incontournable, s'était appliqué auparavant au terme de totalitarisme, au cœur de l'analyse des phénomènes politiques les plus décisifs du XXe siècle. Il a lui aussi une longue histoire, qui est celle de controverses fortement argumentées et d'en donner lieu à la publication de quelques-uns des ouvrages majeurs du XXe siècle, en histoire, en sciences politiques ou en philosophie. Il peut donc être utile de partir des débats sur sa pertinence et ses limites pour introduire ensuite notre propre catégorisation des pathologies de la démocratie. Car s'il aurait été intéressant de suivre cette analyse à travers ces deux termes de populisme et de totalitarisme, la notion de totalitarisme a une histoire critique d'une profondeur beaucoup plus grande à partir de laquelle il est plus facile de travailler. Voyons quelles ont été l'évolution de ce type de conceptualisation et pourquoi elle nous apparaît problématique. La notion de totalitarisme, dans un premier temps, a entendu se superposer à celle de nazisme et de stalinisme. C'était pour qualifier une communauté d'institutions ou de programmes ou de méthodes entre ces deux types de régimes. Elle avait par définition une dimension comparative. Et ce sont, en conséquence, les termes de cette comparaison qui ont d'abord été le cœur de la conceptualisation. Cette comparaison du nazisme et du stalinisme a été un lieu commun de la pensée libérale des années 1930. En a témoigné l'ouvrage emblématique d'Elia Lévy, L'ère des tyrannies, publié en 1938. L'œuvre d'un Boris Souvarine, venu, lui, du communisme, a aussi été pionnière en la matière. Mais dans les deux cas, c'était d'abord les traits répressifs des deux régimes qui étaient rapprochés, leur brutalité et leur cynisme, leur soumission au règne de la force et du mensonge, leur capacité d'asservissement des hommes et leurs crimes. Arthur Koestler, avec Le zéro infini, ou Simone Veil, dans Pression et liberté, développent ensuite des analyses de même nature. Et pour cette littérature, les régimes totalitaires du XXe siècle ne faisaient d'une certaine façon que renouer avec la longue histoire du despotisme et de l'autocratie, avec la longue histoire aussi des massacres de population et des crimes d'État. Le totalitarisme n'était ainsi que la version modernisée d'une figure archaïque et antique de l'oppression et de la dictature. L'Holocauste, il est vrai, n'avait pas encore eu lieu, et les crimes de Staline n'étaient qu'imparfaitement connus. Dans les années 1950 et 1960, ensuite, la science politique a plus précisément entendu distinguer ces régimes des dictatures traditionnelles. On peut même dire que la conceptualisation de la notion du totalitarisme a commencé avec la volonté de les distinguer des dictatures traditionnelles. Dans son cours à la Sorbonne de l'année 1957-1958, qui sera ultérieurement publié sous le titre « Démocratie et totalitarisme », Raymond Aron distinguait par exemple cinq éléments principaux qui caractérisait le régime totalitaire. Premier élément, le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité politique. Deuxièmement, le parti monopolistique est animé ou armé d'une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui par suite devient la vérité officielle d'État. Monopole et idéologie, vérité officielle d'État. Troisième élément du totalitarisme, pour répandre cette vérité officielle, l'État se réserve à son tour un double monopole, le monopole des moyens de force et celui des moyens de persuasion. Et l'ensemble des moyens de communication est donc mis à son service seul. Quatrième caractéristique du phénomène totalitaire, pour Aron, la plupart des activités économiques et professionnelles sont soumises à l'État et deviennent d'une certaine façon partie de l'État lui-même et sont colorées aussi et gouvernées par la vérité officielle. Cinquième caractéristique, tout étant désormais activité d'État, une faute commise dans une activité économique ou professionnelle est simultanément une faute politique, une faute idéologique. D'où, au point d'arrivée, une politisation généralisée, une transfiguration, je le cite, idéologique de toutes les fautes possibles des individus et, en conclusion, une terreur à la fois policière et idéologique. Dans la même veine, Caron, un autre livre qui a eu un écho beaucoup plus grand dans le monde anglo-saxon notamment, est l'ouvrage de Carl Friedrich, Dictatorship and Autocracy, qui était publié en 1966. Il a pour caractéristique d'avoir été publié avec comme co-auteur un jeune universitaire qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui sera un des grands secrétaires d'État américains au temps de Carter, et qui proposait, lui, de retenir six critères distinguant les régimes totalitaires des formes anciennes d'autocratie. Premièrement, une idéologie officielle totalisante. Deuxièmement, un parti unique gestionnaire de cette idéologie, et généralement sous la coupe d'un seul homme. Troisièmement, une police secrète très développée. Quatrièmement, le monopole des moyens de communication de masse. Cinquièmement, le monopole des armes et de l'ensemble des moyens de coercition. Sixièmement, le contrôle monopolistique de toutes les organisations, y compris l'économie. Il est important de rappeler que l'ouvrage de Friedrich dominera pendant près de 20 ans, pratiquement jusqu'à la chute du mur de Berlin, la science politique américaine sur le sujet, et plus largement même, malgré ses évidentes faiblesses. Dans les deux cas, Aron et Friedrich, le caractère moderne des régimes totalitaires était analysé à partir du rôle de l'idéologie. Friedrich parlait de frénésie idéologique, par exemple, et de l'existence d'une instance qui détient le monopole de l'activité politique et de l'énonciation de la vérité. On donnera ensuite des définitions qui changeront, mais disons qu'on peut considérer que c'est la première vague des définitions, la première vague des conceptualisations du totalitarisme. Elles ont une dimension que l'on peut dire essentiellement sociologique et phénoménologique, même si, à l'époque, je pense par exemple aux travaux sur l'Italie de Gentile, il y a eu le début d'une approche plus globale, anthropologique et même philosophique qui était esquissée. Mais dans ce premier temps, c'est bien autour de trois thématiques que s'est développée l'analyse du fait totalitaire, l'idéologie, le monopole du parti et les conditions d'organisation de la coercition. C'était donc toujours dans le cadre d'une vision de dictature qui a été transformée, je dirais, par ces institutions modernes que sont les partis et ce rôle nouveau qui est celui du gouvernement des esprits. Et c'est ensuite trois autres façons de concevoir le totalitarisme qui vont successivement s'imposer pour aller plus loin que ces analyses. C'est d'abord l'analyse du totalitarisme comme religion séculière. Ensuite, l'analyse du totalitarisme comme idéocratie, et enfin, l'analyse du totalitarisme comme retournement de la démocratie. Ce sont donc ces trois autres conceptions qu'il faut aborder avant de faire le point sur les limites de ces analyses du totalitarisme. Deuxième temps des conceptualisations, les religions séculières. C'est le philosophe Erik Voegelin qui a le premier utilisé la catégorie de religion politique. Dès 1938, il a publié un livre avec ce titre, mais ce livre a été retiré de la vente un mois après sa publication, car c'était l'Anschluss de l'Autriche. En utilisant cette expression de religion politique, Voegelin voulait dire que le totalitarisme était au premier chef une perversion d'ordre spirituel. Ce n'était pas simplement de l'ordre de l'exercice d'une dictature, que cela engageait le rapport de l'homme au divin. Juif allemand réfugié aux États-Unis, juste après l'apparition de l'ouvrage, Voegelin avait bien vu que le fait totalitaire débordait la question des pratiques autoritaires et de la propagande idéologique. Le collectivisme politique, avait-il dit, n'est pas simplement une apparition politique et morale. C'est sa composante religieuse qui me paraît beaucoup plus importante. Je ne veux pas dire par là, poursuivait-il, que le combat contre le national-socialisme ne doit pas être mené également sur le plan éthique, mais justement qu'il n'est pas mené assez radicalement, selon mon point de vue, car lui manque un enracinement en la religiosité. Cette analyse connaîtra, quelques années plus tard, un grand retentissement, lorsqu'elle servira de base à la première grande recension critique qu'il fera en 1953 du livre d'Hannah Arendt, « Les origines du totalitarisme ». Il sera le grand discutant d'Hannah Arendt. Et dans la récente édition « Les origines du totalitarisme » dans la collection Quarto chez Gallimard, vous avez l'ensemble des articles et des réponses d'Hannah Arendt qu'elle a faites à Voegelin. Si Voegelin salue la puissance de l'interprétation de Arendt et notamment la claire conscience qu'elle avait du fait que le dessein des idéologies totalitaires n'est pas la transmutation révolutionnaire de la société, mais plus profondément la transformation de la nature humaine elle-même, il reprochera à Arendt de ne pas avoir été jusqu'au bout de ses intuitions, d'être restée prisonnière, dira-t-il, d'une vision libérale de gauche, pourrait-on dire aujourd'hui, marquée par la foi dans le progrès et la capacité démiurgique de l'homme, d'être restée prisonnière, lui dira-t-il, de l'idéologie immanentiste. Les mouvements totalitaires, écrira à Arendt Voegelin, ne prétendent pas remédier aux maux de la société par des changements industriels, mais entendent donner naissance à un millénium, au sens eschatologique du terme, en transformant la nature humaine. La foi chrétienne en une perfection transcendante par la grâce de Dieu a de la sorte été convertie et pervertie en l'idée d'une perfection immanente grâce à l'action de l'homme. Emilio Gentile reprendra aussi cette notion de religion politique à propos du fascisme italien. Et il opposera dans cette direction ce qu'il appelle les formes discrètes de la religion civile, typique de la société ouverte, une expression tocquevillienne, aux formes intégristes de la religion politique, typique de la société fermée. Mais chez lui, le terme était en fait employé comme synonyme de religion séculière, dénomination qui avait été forgée par Raymond Aron en 1944 et qui va désormais s'imposer pour qualifier l'ensemble de ces interprétations, disons, religieuses des phénomènes totalitaires. Dans un texte de 1944, publié dans la France Libre, qui avait pour titre « L'avenir des religions séculières », voilà ce qu'écrivait Aron. « Le socialisme est religion, dans la mesure même où il est anti-religion. S'il nie l'au-delà, il ramène sur la terre certaines des espérances que, naguère, les croyances transcendantes avaient seules la vertu d'éveiller. Je propose, poursuivait-il, d'appeler religion séculière les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situent ici-bas, dans le lointain de l'avenir, sous la forme d'un ordre social à créer, le salut de l'humanité. Religion de salut collectif, ces religions séculières ne connaissent rien, pas même les 10 commandements, pas même les règles du catéchisme ou d'une morale formelle, qui soient supérieures en dignité ou en autorité à l'objectif de leur mouvement. Dès lors, conclut Aron, les hommes et les choses, les pensées et les actes sont rapportés à ce terme ultime et l'utilité par rapport à lui est la mesure de la valeur même spirituelle. Le zélateur de ces religions, sans même que sa bonne conscience soit troublée, mettra en œuvre tous les moyens, si horribles soient-ils, puisque rien ne saurait compromettre la sanctification par le but. À la suite d'Aron, beaucoup d'auteurs insisteront sur le fait que les totalitarismes ont reproduit la structure typique des religions traditionnelles, articulée autour des 4 dimensions de la foi, du mythe, du rite et de la communion. Et rapporté plus spécifiquement au monde catholique de la structure hiérarchique de l'Église, comme instance du gouvernement de l'interprétation de la foi et de l'organisation structurée du monde des croyants, l'existence d'instances énonciatrices et régulatrices de la vérité. Et plus récemment, Marcel Gaucher, dans le troisième volume de son « L'avènement de la démocratie à l'épreuve des totalitarismes », a fait de cette notion de religion séculière le cœur de son interprétation du phénomène totalitaire. Les totalitarismes, dit-il, ont été fondamentalement des expériences de croyance. Leur objet, qui fait leur séduction, c'est la restauration sous des formes modernes de la forme ancienne des sociétés qui étaient organisées par la religion. Le sens ultime des entreprises totalitaires, dit-il encore, réside dans le dessein de reconstituer les rouages de l'unité religieuse de l'intérieur et à partir de la modernité individualiste, égalitaire, représentative. Ce qu'elles ont de plus profond en commun, c'est l'ambition de faire revivre toutes ces dimensions qui résultaient de l'assujettissement à l'au-delà, l'identité dans le temps, l'inclusion communautaire, la conjonction hiérarchique, l'union avec le pouvoir, dans l'élément de l'immanence et sur la base des vecteurs de la structuration autonome. C'était mettre là ses pieds dans la suite des auteurs que nous venons de citer, tout en intégrant cette notion de religion séculière, sa définition propre de la religion, comme puissance de structuration complète des communautés humaines qui emporte un type de pouvoir, de lien entre les êtres, un mode de disposition dans le temps, une forme de collectif constituant un univers radicalement autonome. C'est donc dire que cette analyse du totalitarisme comme religion séculière continue à être énoncée, reprise avec force. Troisième conceptualisation, le totalitarisme comme idéocratie. Je ne me développe pas longuement ce point parce que j'en ai déjà parlé dans un cours antérieur. C'est à Hannah Arendt que l'on doit avoir mis l'accent sur le rôle central de l'idéologie dans les totalitarismes. Mais en donnant à ce terme d'idéologie une dimension dynamique, beaucoup plus précise que la seule référence à une conception du monde martelée par la propagande. Le propre de l'idéologie, tel que l'analysait Arendt, repose en effet non pas tant sur son contenu précis que sur le mécanisme de séparation de la réalité qu'elle induit et qu'elle met en œuvre, rendant les individus imperméables aux soupçons ou à la critique argumentée, et instituant de la sorte un pouvoir qui ne se contente pas de gouverner les esprits classiquement, pourrait-on dire, mais qui produit la réalité elle-même. Cette dimension, comme elle a été développée dans un cours antérieur, je n'en dis pas plus aujourd'hui. Quatrième forme de conceptualisation, c'est le totalitarisme comme retournement de la démocratie. Et je l'ai déjà cité, c'est à Claude Lefort qu'il revient d'avoir le premier renouveler l'analyse du totalitarisme dans cette direction. Au point de départ de sa réflexion, le constat, lui aussi, de l'inaptitude des conceptualisations classiques de ce qu'on appelait au Moyen-Âge le pouvoir débordé, les tyrannies, les dictatures, les régimes despotiques ou autocratiques. Inaptitude à cerner vraiment le phénomène. Le fascisme et le communisme, a-t-il écrit en ce sens, relèvent d'une interprétation métasociologique. Et toute tentative de les analyser comme des formations socio-historiques empiriques se heurte, si riche soit la documentation, à une limite, car il ignore que c'est la question de l'être social, de l'historique comme tel, qui est mise en jeu dans le totalitarisme. Et si nous sommes fondés à parler de totalitarisme, et non pas simplement de dictature, de quelque sorte qu'elle soit, ou de tyrannie, souligne Lefort, c'est non pas seulement parce que la dictature a atteint sa plus grande force, parce qu'elle est en mesure d'exercer sa contrainte sur toutes les catégories de la population et d'édicter des consignes qui valent comme normes dans tous les domaines de la vie sociale. Certes, dit-il, il en va bien ainsi, mais s'arrêter au trait de la dictature, même développée et multipliée, c'est rester au ras de la description empirique. L'histoire du totalitarisme est en effet pour lui singulière, sans précédent. Elle n'est pas simplement un excès de la dictature. Elle appartient en propre à l'âge de la modernité démocratique. Le totalitarisme, a-t-il écrit, ne s'éclaire qu'à la condition de saisir la relation qu'il entretient avec la démocratie. L'État totalitaire ne se laisse concevoir qu'au regard de la démocratie et sur le fond de ses ambiguïtés. Il en est la réfutation point par point, et pourtant, il porte à leur actualité des représentations qu'elle contient virtuellement. La démocratie trouve en lui une puissance adverse, mais qu'elle porte en elle-même. Le totalitarisme est donc, conclut-il, prolongement et négation en même temps de la démocratie. Comment comprendre ce lien ? Lefort part pour cela d'une analyse de l'indétermination démocratique. Celle-ci a pour lui une double dimension. Sociologique d'abord, la démocratie moderne, a-t-il expliqué, se lie au premier chef à la désincorporation du social. C'est de cette façon que s'opère la rupture avec l'Ancien Régime, qui était une société de corps. La société démocratique, écrit-il, la révolution démocratique, longtemps souterraine, explose quand se retrouve détruit le corps du roi, quand tombe la tête du corps politique, quand, du même coup, la corporéité du social se dissout. Alors se produit une désincorporation des individus. Mais apparaît du même coup le caractère plus insaisissable d'une société sérialisée au moment même où s'affirme le projet de son auto-institution. Du même coup, écrit Lefort, la démocratie inaugure l'expérience d'une société insaisissable, immaîtrisable, dans laquelle le peuple sera dit souverain, certes, mais il ne cessera de faire question à son identité, où celle-ci demeurera latente. Et la société démocratique s'institue donc, c'est sa thèse, comme une société sans corps et qui met en échec la représentation d'une totalité organique. Du coup, pour lui, ni l'État, ni le peuple, ni la nation ne figurent des réalités substantielles. Et leur représentation sera toujours dépendante d'un discours sociologique, d'une élaboration sociologique et historique, toujours liée au débat politique problématique donc. Indétermination sociologique d'abord donc. Indétermination politique ensuite. C'est aussi la représentation du pouvoir comme corps qui s'efface avec l'avènement de la démocratie. Les fondements de l'ordre politique se dérobent en conséquence. Le pouvoir va devenir un lieu vide à construire, à inventer. La démocratie, écrit Lefort, s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. Elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination dernière. Indétermination quant au fondement du pouvoir, quant au fondement de la loi et quant au fondement du savoir, quant au fondement encore du rapport de l'un avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale. Dans ces conditions, la société démocratique est pour lui une société dans laquelle le pouvoir, la loi et même la connaissance se trouvent soumises à l'épreuve d'une indétermination radicale. Et le totalitarisme, sur la base de cette double analyse sociologique et politique, va se présenter comme un mode de résolution de ces deux formes d'indétermination. Le totalitarisme va d'abord prétendre redonner corps à la société, la restaurer en une forme d'unité, surmonter cette division, nier sa sérialité problématique. Il va ensuite entendre surmonter la tendance au vide du pouvoir en instaurant un pouvoir pleinement identifié à la société. C'est en ce sens que le totalitarisme a prétendu accomplir la démocratie, redonner corps au peuple et consistance au projet d'une maîtrise collective sur le monde. Il a porté l'idée qu'il allait instaurer ce qu'elle avait jusqu'à présent été incapable de promouvoir, mais au prix justement d'un retournement pervers de la démocratie contre elle-même, d'une destruction présentée paradoxalement comme la forme et la condition de son accomplissement. Ces quatre familles de conceptualisation du fait totalitaire n'ont pas la même puissance. Nous les avons présentées dans l'ordre croissant, à nos yeux, de leur force explicative. Mais toutes présentent des carences qu'il faut prendre en compte pour avancer. Quelles sont ces carences ? Les diverses conceptualisations du totalitarisme que nous avons examinées présentent quatre faiblesses principales. Première faiblesse, le présupposé de l'unité et de la continuité de leur objet. Lorsque Hannah Arendt parle du régime soviétique, c'est à l'URSS stalinienne de 1932 à 1952, année où elle finit de rédiger son livre, celle des grandes purges dont elle parle, celle des grandes purges, des procès politiques et des déportations de masse. Mais les camps et la terreur d'État ont été présents dès la période de Lénine. Et en revanche, après la mort de Staline, le rapport Khrouchtchev infléchira l'orientation du régime en mettant fin au culte de la personnalité. Il ralentira les mouvements de purge et réduira l'intensité de la terreur. Et en bout de course, l'URSS de Gorbatchev offrira un visage évidemment encore plus contrasté. Un seul et même concept peut-il donc être utilisé pour décrire ces différentes phases ? En 1990, alors que le mur de Berlin venait de tomber, Michel Heller, un historien d'origine russe, a publié un ouvrage qui avait pour titre frappant « Le septième secrétaire ». Comme si Gorbatchev était le septième secrétaire du parti. Comme si Gorbatchev n'avait fait que s'inscrire dans une histoire strictement continue depuis Lénine et Staline. La prise en compte des régimes communistes de l'Est conduit aussi à soulever cette question de l'unité de l'objet, tant dans leur histoire interne que dans leur diversité. Le régime de Ceausescu est loin d'être celui de Kadar, sans même parler de la Chine, du Vietnam ou du Cambodge. L'analyse du nazisme est, elle, de son côté plus simple, car c'est sur une dizaine d'années seulement que se déroule la trajectoire hitlérienne. Il y a donc là un hiatus entre la démarche de l'historien qui va chercher à comprendre les différences et les évolutions des mouvements concernés et celle du philosophe politique qui tend à unifier les réalités sous la barrière du concept. Confronté à cette question et poussé dans ses retranchements lors de la publication de son ouvrage, Hannah Arendt ne cessera en fait de réduire le champ historique de son étude pour essayer de faire coïncider l'histoire et le concept. Elle exclura, par exemple, formellement Lénine, simplement considéré comme un homme d'État de son champ d'analyse. Et elle qualifiera ensuite la période khrouchtchevienne de despotisme éclairé. Elle ne prendra pas en compte, bien sûr, la Chine maoïste. De l'autre côté, elle mettra le fascisme italien à part. Et elle ira jusqu'à considérer que le nazisme n'avait été authentiquement totalitaire qu'à partir de 1938, et qu'il n'était auparavant qu'une dictature nationaliste ordinaire. C'était donc une très sérieuse réduction du champ, à la fois de l'histoire du soviétisme et du nazisme. Les conceptualisations d'Aron et de Friedrich, à l'inverse, voyaient trop large et permettaient d'intégrer, à la limite, beaucoup d'autres régimes autoritaires. Beaucoup d'autres régimes qui exerçaient un monopole de la politique, beaucoup d'autres régimes qui étaient aussi mus par l'idéologie. Et en tout cas, de façon indifférenciée, tous les régimes communistes. La conceptualisation d'un phénomène ne doit pas simplement l'appréhender à son acmé, elle doit le comprendre dans la totalité de son mouvement historique et clairement identifier la distinction entre nécessité et possibilité dans ces évolutions. Il n'y a de bonne conceptualisation, devrait-on dire, que si elle est capable de faire se superposer le travail de l'historien et du théoricien politique. Or, les travaux sur le totalitarisme ont toujours été fortement distingués. Et entre, par exemple, le travail d'un Yann Kershaw et l'œuvre de Claude Lefort, les communications reste finalement assez faible. Deuxième limite, les termes de la comparaison des régimes. C'est la comparaison du nazisme et du stalinisme qui a nourri la production du concept de totalitarisme et qui est au cœur de l'œuvre d'Arendt, alors que Lefort, en fait, s'est surtout intéressé au stalinisme. Le problème est de savoir quels sont en la matière les éléments déterminants de la comparaison. Dans l'opinion publique, c'est souvent la comptabilité des horreurs qui a fondé le lien entre les deux régimes, celle qui recense les camps et le nombre des déportés, qui établit l'ampleur des massacres, qui décrit les appareils répressifs, souligne le commun mépris des individus et de la vie humaine, ou fait le parallèle entre ce qu'on a appelé le génocide de classe à côté du génocide de race, en termes quantitatifs. Mais en même temps, les observateurs n'ont cessé d'insister sur les différences. Dans « Démocratie et totalitarisme », Aron invite, par exemple, à distinguer la terreur soviétique, qui était un instrument de gouvernement conçu pour accélérer le changement et modeler plus aisément les hommes et les choses, tandis que dans le cas du nazisme, dit-il, l'objectif était purement et simplement l'extermination. Les analystes ont été encore plus nombreux à souligner les oppositions philosophiques fondamentales qui sous-tendaient les deux régimes, ce qu'on appelait leur différence en termes d'intentionnalité éthique. D'un côté, la révolution russe est inscrite dans la tradition des Lumières et la longue marche des révolutions de libération, prolongeant pour l'accomplir, entendant l'accomplir, la révolution française. La révolution russe s'est réclamée de valeurs universelles, affichant hautement son internationalisme, tandis que dans l'autre, le nazisme a exacerbé les passions racistes et nationalistes et n'a visé qu'à accomplir le destin d'un peuple particulier. Et c'est clairement réclamé d'une tradition contre-révolutionnaire qui voulait tourner la page de l'Aufklärung avec l'expression d'un vitalisme qu'on peut qualifier de post-nietzschéen. Et l'unicité de l'Holocauste a enfin souvent été mise en avant pour souligner la spécificité même du nazisme. Mais ce sont aussi les formes mêmes de la domestication des individus et des populations qui ont fait l'objet d'analyses soulignant les différences entre les systèmes. Hannah Arendt, on le sait, avait fait des camps de concentration l'institution inédite qui donnait son unité au phénomène totalitaire. Et à l'inverse de l'approche des historiens comptables, ces historiens comptables, c'est l'expression un peu péjorative qu'avait utilisée Enzo Traverso pour qualifier tous les historiens qui se contentaient d'essayer de comparer les régimes en faisant des colonnes de chiffres sur le nombre de morts, de déportés, de personnes assassinées. À l'inverse, ces historiens comptables, qui ramènent toujours les figures de la terreur à des nombres de victimes, certains travaux ont cependant montré l'importance de ce qui séparait, par exemple, le fonctionnement des camps dans les deux cas. Et on peut suivre là les observations de Sonia Combes, qui a illustré cette différence en comparant deux personnages. Le chef du camp sibérien d'Osorlag, F. Stigneff, et le commandant d'Auschwitz. La tâche du premier, explique Sonia Combes, était la construction d'une voie ferrée qu'il fallait réaliser à tout prix, au prix de la vie de milliers de zecs. Alors que celle du second était la gestion d'un camp, Auschwitz-Birkenau, dont le but essentiel était l'extermination des Juifs. Le rendement du premier camp, celui d'Osorlag, se mesurait en kilomètres de voies ferrées, celui du deuxième en nombre de morts. Le premier pouvait gaspiller sans compter ou économiser des vies humaines selon ses besoins. L'autre avait reçu l'ordre de subordonner toute considération de type productif à l'impératif d'éliminer des vies humaines. Et Raymond Aron résumera la différence en disant que dans un cas, la terreur avait pour aboutissement le camp de travail et dans l'autre, la chambre à gaz, ce qui n'est certes pas la même chose. L'objectivité de la comparaison entre nazisme et stalinisme sera en outre souvent biaisée par des investissements politiques. C'est notamment le cas en Allemagne, voire l'œuvre de Nolte. Certains ont de l'autre côté parlé d'une asymétrie de l'indulgence dont aurait bénéficié l'analyse du stalinisme. C'est une formule qui est de l'historien britannique Timothy Garton Ash. On a aussi pu dire que le concept de totalitarisme ne pouvait masquer des différences considérables entre bolchevisme et fascisme que parce qu'il regardait le monde exclusivement du point de vue d'un libéral. Le cas du fascisme italien, enfin, a fait l'objet de nombreuses interrogations pour savoir s'il convenait de le considérer ou pas comme une figure du totalitarisme. Si les éléments constitutifs d'une terreur de masse en ont été absents, le philosophe politique du régime, la philosophie politique du régime, n'était pas très éloignée de celle des nazis. Et Mussolini s'est lui aussi présenté en figure de l'incarnation du peuple. Là aussi, le débat a une dimension évidemment politique, en Italie spécialement. Récemment, Berlusconi ayant jusqu'à dire que, je le cite, « Mussolini n'a jamais tué personne, il envoyait les gens en vacances ». Au-delà de cette bouffonnerie, il faut constater les divergences d'appréciation sur ce point. Arendt et Lefort, ou Aron, n'en parlent pas, par exemple. Plus nombreux ont évidemment été les Italiens à le faire, soucieux, comme Emilio Gentile, de ne pas minimiser la portée de l'histoire du fascisme et désireux d'intégrer son interprétation dans le cadre général du phénomène totalitaire, tout en affirmant qu'il ne constituait pas, je cite Emilio Gentile, un totalitarisme parfait. On a même vu employer récemment l'expression de totalitarisme autodidacte pour essayer de, c'est une expression de Marcel Gauchet, pour le qualifier. Si l'on tient compte de ces diverses remarques et objections, on voit que le problème n'est pas d'adapter ou de rejeter la notion de totalitarisme, car il apparaît bien qu'en renvoyant aux idées conjuguées d'omniscience, d'omnipotence, de pouvoir société, d'identité, d'incarnation, il renvoie un ordre de réalité effectivement fortement distinct des tyrannies et des despotismes qui avaient précédemment marqué l'histoire de l'humanité. Mais la nature du lien qu'il convient d'établir entre les régimes éventuellement concernés reste pendante. S'agit-il d'identité, de parenté ? Philippe Burin a proposé de parler de parenté entre les régimes. S'agit-il d'une proximité négative ? C'est la thèse de Traverso, il dit l'unité du totalitarisme ne se dessine qu'en négatif, comme antithèse du libéralisme. La chose reste entièrement à préciser. Et ce, d'autant plus qu'est élargie la collection des régimes rassemblés sous le vocable de totalitarisme. L'ambiguïté est toujours patente en la matière. Le totalitarisme, enfin, est-il un régime ou une idéologie ? Le terme de totalitarisme, en effet, servit aussi bien à désigner des régimes, et donc des institutions, des procédures, des pratiques, et aussi à qualifier une idéologie, et donc des valeurs, des préjugés, des visions de la politique et de l'histoire. Les deux registres sont souvent mêlés, mais de façon confuse. Du coup, les termes de la comparaison des régimes restent approximatifs, et le statut d'un idéal type totalitarisme également imprécis. On peut certes arguer qu'il s'agit de régimes fondés sur l'idéologie, mais cela ne règle pas la question de savoir à quel registre appartient le concept, à celui de l'historien ou à celui du philosophe politique. Quatrième source d'insatisfaction devant cette notion pourtant indispensable de totalitarisme, la question des origines. D'où vient, où est l'origine des totalitarismes ? Comment expliquer son surgissement ? Là aussi, les interprétations se partagent. Les historiens mettent l'accent, ont mis l'accent régulièrement, sur les circonstances particulières, immédiates. François Furet consacre ainsi un prologue de près de 100 pages à la Première Guerre mondiale en introduction du passé d'une illusion. Yann Kershaw considère, lui, le fascisme comme une forme nouvelle et inédite de nationalisme révolutionnaire apparue après la Grande Guerre, donnant lui aussi donc un rôle essentiel à la Première Guerre mondiale. Et pour lui, le totalitarisme n'a pas tenu son identité à une sorte d'identité première, d'une idéologie préconstituée, mais c'est l'expérience vécue de la guerre et sa transformation comme réalité mystique de la communauté nationale que représentait la camaraderie du front qui a profondément formé le fascisme. Et le fascisme est né pour lui de cette volonté de perpétuer l'expérience de la guerre, de la sublimer comme une forme nouvelle et inédite de mysticisme, de façon de faire communauté, en l'institutionnalisant à travers la militarisation, la sacralisation de la politique, la création d'un État nouveau. En Allemagne, Anolte insistera sur la peur du communisme, on le sait, pour expliquer l'émergence du nazisme. Et il ira jusqu'à réduire le nazisme, c'est ce qui sera reproché à son livre le plus fameux, à être une sorte de contre-communisme, d'anti-marxisme. Sans le marxisme, il n'y a pas de fascisme, dira-t-il, qui évidemment lui sera très violemment reproché par de nombreux compatriotes, sans compter les autres. Tandis qu'un historien social contemporain, comme Jürgen Kocka, lui, a mis l'accent sur les particularités de l'histoire prusso-allemande du XIXe siècle, en montrant la prégnance des traditions autoritaires et féodales, de nature pré-industrielle, pré-capitaliste dans le pays. Et marquée par une révolution bourgeoise manquée, c'est son expression, l'Allemagne en crise des années 20 aurait été ainsi submergée par ses forces prémodernes. Voilà l'explication de Jürgen Kocka, qui est l'historien le plus fameux en Allemagne actuellement. À côté de ces interprétations immédiates, les historiens des idées et les philosophes élargiront volontiers la focale de l'interprétation. Ils ont souvent fait de la modernité, en général, comprise indistinctement, le vecteur de l'émergence des totalitarismes. Dans une perspective conservatrice, ce sera la mise en accusation des Lumières. Un Eric Voegelin a utilisé dans cette direction des expressions saisissantes. Voilà ce qu'il écrivait dans une lettre à Hannah Arendt. Le pasteur libéral qui nie le péché originel, l'intellectuel laïque qui affirme que l'homme est bon, le philosophe qui plaide en faveur d'une éthique utilitariste, le juriste positiviste qui lit la loi naturelle, le psychologue qui interprète les phénomènes de la vie intellectuelle comme autant de manifestations de la vie instinctive. Aucun d'entre eux n'a commis des crimes comparables à ceux d'un assassin SS dans un camp de concentration. Il reste qu'ils en sont tous des pères intellectuels et une cause historique immédiate. La véritable ligne de partage, voilà ce qu'il disait dans sa recension de Hannah Arendt, la véritable ligne de partage dans le monde contemporain ne passe pas entre les libéraux et les totalitaires, mais entre les partisans d'une transcendance philosophique ou religieuse d'un côté et les adeptes sectaires de l'immanentisme, libéraux ou totalitaires, de l'autre. C'était donc dire que le totalitarisme était une des manifestations de la modernité, et c'était pouvoir dire d'une certaine façon que la modernité libérale elle-même pourrait devenir aussi totalitaire. Ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'auteurs qui considèrent que la civilisation démocratique conduit à une nouvelle forme de barbarie. C'est ce thème qui a fait l'objet du livre critique de Rancière, « La haine de la démocratie ». Et dans un ouvrage qui eut à son époque un énorme écho, « Les origines de la démocratie totalitaire », Talmon avait de même fait remonter l'origine du totalitarisme à la philosophie du XVIIIe siècle. Et son livre s'était acharné à démontrer qu'un même fil reliait Rousseau à Robespierre puis à Staline, celui qu'il appelait de la tradition démocratique totalitaire. Et beaucoup d'autres reprendront la même antienne pour accuser de façon répétitive Marx, Rousseau ou même Hobbes d'avoir ouvert la voie au totalitarisme. C'était donc la modernité elle-même qui était mise au banc des accusés. Dans un livre à l'immense influence, « La société ouverte et ses ennemis », livre dont le projet avait été conçu après l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich, pays dont il était originaire, Karl Popper remontera même plus haut, puisqu'il érigera Platon en figure fondatrice du totalitarisme moderne. Aussi largement ouverte, la focale dessine évidemment une image trop panoramique pour permettre de suivre les méandres de l'histoire. Si la possibilité du totalitarisme était en effet aussi fortement inscrite dans la longue durée, c'est paradoxalement la rareté du phénomène qu'il faudrait expliquer et les raisons pour lesquelles il ne s'est vraiment manifesté dans toute son ampleur au XXe siècle seulement, et surtout qu'il ait pu ensuite relativement s'effacer. Sauf à penser effectivement que c'est la modernité elle-même qui est en son esprit totalitaire et qu'un totalitarisme des corps a succédé maintenant à un totalitarisme des esprits. Ce long détour par les problèmes posés par les limites de la notion de totalitarisme nous permet de préciser les exigences auxquelles doit satisfaire une conceptualisation des pathologies de la démocratie. Il y a quatre exigences. Premièrement, cette conceptualisation doit permettre de rendre compte de la grande variabilité de ces pathologies, alors que la notion de totalitarisme présuppose l'unité et la continuité de leur objet. Deuxièmement, elle doit lier l'unité de la conceptualisation et la capacité d'explication de toutes les expressions spécifiques du phénomène, alors que l'appréhension du totalitarisme faisait diverger les travaux des historiens et ceux des théoriciens politiques. Troisièmement, elle implique de pouvoir qualifier séparément des régimes et des idéologies, alors que la notion de totalitarisme mêle les deux. Elle doit enfin pouvoir offrir une réponse unifiée à la question des origines de ces pathologies, alors que la notion de totalitarisme est écartelée entre focale longue et focale courte. Sur chacun de ces points, il convient de le noter, la rupture entre histoire et philosophie politique, apparaît centrale. Et c'est dans ce cadre que je propose de distinguer, je l'ai déjà mentionné dans un cours précédent, les formes et les figures des pathologies de la démocratie. Les formes sont dérivées des différentes modalités dans la détermination démocratique. Et je n'ai pas le temps sur ce plan de préciser ma distinction avec le travail de Lefort. L'indétermination du sujet de la démocratie, ce que j'ai appelé d'abord le peuple introuvable, et l'indétermination conséquente de la représentation-figuration. En deuxième lieu, l'indétermination des figures d'exercice de la souveraineté. En troisième lieu, l'indétermination des modalités de la légitimation. Ces formes pathologiques vont résulter de la tentative de simplification ou de résolution forcée de ces indéterminations. Mais le point décisif est que ces formes ne consistent pas en idéotypes ou en modèles, mais en mécanismes et en processus. Un exemple en matière de réduction de la détermination de la représentation-figuration. Le mécanisme principal est celui de l'identification, sans que soit précisée la modalité précise de cette identification. Cela peut aller de la mise en scène d'une proximité à l'expression d'une pure identité. Et dans ce cas, le fait qu'il y a un même mécanisme permet la proximité ou l'identité des mécanismes permet de rapprocher des régimes que l'identité sépare très profondément. Ce peut être le cas aussi du mécanisme d'homogénéisation d'un corps civique. Et on a vu que le terme même d'homogénéité était employé par des auteurs et dans des sens très différents. Ces mécanismes et ces procédures définissent un cadre général à l'intérieur duquel vont se dessiner des figures qui, elles, peuvent être encore plus disparates. Les figures vont avoir deux dimensions. Elles peuvent consister dans l'expression de projets ou la formation d'idéologies, mais aussi, bien sûr, constituer des régimes. Et projets et idéologies vont constituer une position intermédiaire entre forme et figure. Ces figures, alors que ce qui caractérise les formes, c'est d'être déterminé par les types de mécanismes ou de procédures de réduction des indéterminations qu'elles mettent en œuvre, les figures, quant à elles, vont être à chaque fois spécifiques. Elles vont être dessinées par des variables de personnalité, de radicalité, de coercition, mais renvoyées à chaque fois une figure spécifique. En termes de méthode des sciences sociales, c'est l'historien qui va d'abord explorer la constitution des figures, tandis que c'est le théoricien politique qui va dessiner les formes. Mais chacun d'entre eux, pour faire son travail, devra partager la démarche de l'autre. Pour comparer des figures, l'historien doit par exemple s'appuyer sur la connaissance des formes et éventuellement participer à leur construction. À l'inverse, le théoricien politique ne peut élaborer des formes que s'il est capable de maîtriser un important corpus de figures. Cette approche permet donc de surmonter le divorce qui a été constaté dans l'analyse des phénomènes totalitaires. On pourrait dire aussi du populisme. mais pas du jacobinisme, parce que le jacobinisme, lui, c'est une figure bien déterminée, ça n'est pas du tout une forme. Le jacobinisme, c'est une figure caractéristique d'une période de quelques mois. Faut-il donc abandonner des notions comme celles de totalitarisme et de populisme ? Notons que la première a indéniablement rempli une fonction intellectuelle et politique de premier plan pour penser le XXe siècle. C'est moins clair de la seconde, celle de populisme au XXIe siècle, en tout cas pour l'instant. Mais cette notion de totalitarisme a épuisé, pourrait-on dire, sa productivité historique. La notion de pathologie de la démocratie présente aussi, à cet égard, l'avantage d'être plus étroite, de ne pas viser à la qualification générale d'un régime ou une idéologie donnée, mais de se situer par rapport à cette question spécifique de la constitution et de l'évolution des démocraties modernes. Cette perspective que nous ouvrons a aussi la particularité d'offrir le dessin d'un cadre conceptuel unifié pour penser à la fois la nature de la démocratie, son histoire, ainsi que ses problèmes et ses retournements contre elle-même, ainsi que ses conditions de développement. C'est donc une conceptualisation, et une conceptualisation à la fois philosophique, la nature de la démocratie, à la fois historique, à la fois problématique et à la fois, pourrait-on dire, politique. Et c'est ainsi seulement à l'issue du cours de l'an prochain, qui sera la troisième et dernière partie de ce cours sur la théorie de la démocratie, qui sera consacré, lui, aux conditions du développement de la démocratie, que la construction intellectuelle et historique que je commence à proposer pourrait être soumise à la nécessaire épreuve scientifique de validation par falsification. Je vous remercie.